Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de la semaine. À mes côtés, Olivier de Scooter qui co-anime toujours ces épisodes avec moi. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Notre invité de la semaine, Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur. Salut Blaise.
Salut les gars.
Hier, on a explosé tous les compteurs, on a presque fait deux épisodes, voire même trois en un. Mais malgré tout, on n'a pas encore beaucoup parlé de la clinique du coureur. Blaise, j'aimerais savoir un petit peu déjà ce que vous mettez comme outil à disposition du grand public. Tu nous as parlé de l'indice de minimalisme. Qu'est-ce que vous faites autour de cet indice de minimalisme à la clinique du coureur?
Alors, l'indice minimaliste est né d'une publication scientifique où on a questionné 42 experts à travers le monde pour faire une définition claire de ce qu'est le minimalisme versus le maximaliste et comment on peut classer les chaussures. Parce que si tu, comme professionnel, tu fais une prescription en écrivant « chaussures minimalistes » et que la personne se présente dans une boutique pour avoir une chaussure minimaliste, il peut ressortir avec une Oka qui a 4 mm de drop. Donc, on avait un petit problème de définition. Alors, on a figé tout ça dans un consensus d'experts internationaux, 42 experts, 15 pays, les 5 continents. Et en fin de compte, et cet indice minimaliste-là, ben moi, comme professionnel, elle est précieuse parce que je prescris mes chaussures en fonction de l'indice minimaliste, qui est le meilleur indice pour savoir quel tissu je vais stresser. Est-ce que je vais stresser davantage un pied versus un genou, une hanche, un dos? Est-ce que, quelles sont aussi les caractéristiques à l'intérieur de l'indice minimaliste, en fin de compte, que je vais parfois sélectionner de façon plus précise? Exemple, pour la performance, je vais dire une chaussure légère, et ainsi de suite, parce que l'indice minimaliste, c'est 5 critères qui sont le drop, l'élévation au talon, le stack, c'est l'épaisseur de façon générale de la semelle, les technologies de contrôle de la pronation, la flexibilité et le poids, qui est le critère numéro 5. Donc voilà, donc c'est un outil, en fin de compte, beaucoup pour les professionnels de la santé, mais le coureur averti qui veut se positionner puis savoir, ben, sur le site, il peut aller rechercher les chaussures avec les indices minimalistes. On en a plus de 2500 répertoriés et voilà.
C'est assez génial d'ailleurs comme outil. Je l'utilise systématiquement dès que je veux tester des nouvelles chaussures, que ce soit en trail, sur piste ou en running normal. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir directement, on peut choisir le pourcentage de minimalisme qu'on veut et puis avoir le choix de chaussures. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même vachement utile parce que c'est vrai que finalement, pour la plupart des gens, ça va être difficile de mesurer par soi-même l'indice de minimalisme, même si c'est expliqué sur le site. Au moins là c'est fait directement par vous, et je pense que c'est aussi ouvert à d'autres, il y a d'autres institutions aussi qui peuvent proposer des nouvelles chaussures, si je me trompe pas, c'est ça?
Oui, ben en fait le truc, c'est que l'indice minimaliste, c'est un consensus d'experts international. Nous, on est les auteurs et les promoteurs de cet indice là initialement, mais l'objectif, c'est que le plus de monde en utilise. Donc il y a même des boutiques en France qui indiquent l'indice minimaliste sur leurs chaussures. Donc, quand tu rentres dans la boutique, en fin de compte, c'est facile de trouver l'indice minimaliste correspondant. Et je veux préciser, un indice minimaliste de 100%, c'est parce que la chaussure est plus minimaliste. C'est pas parce qu'elle est meilleure, c'est parce qu'elle est plus minimaliste. Et moi, ça m'arrive, pour des conditions particulières, de dire « je voudrais une chaussure avec un indice minimaliste de 30 à 50% parce que j'ai envie d'avoir de l'amorti, de l'absorption, parce que j'ai une condition de pied qu'il faut que je protège, et ainsi de suite. » Donc, c'est un indice qui nous aide à prescrire, à recommander des chaussures, à faire des choix plus éclairés, sans nécessairement que ça soit un indice qui nous dit si c'est mieux ou si c'est moins bien.
Et même une chaussure 100% minimaliste ne sera pas aussi minimaliste qu'un pied nu, finalement.
Alors, une chaussure reste une chaussure. Et c'est sûr que si jamais vous voulez vraiment développer des comportements de modération d'impact super efficaces, le mieux reste le pied nu sur des surfaces fermes en plus, et non pas sur du sable ou du terrain de foot, mais vraiment sur du bitume, pour développer ces bons comportements-là. Donc, effectivement, il y a encore un espace, une distance entre la chaussure la plus minimaliste et le vrai pied nu.
C'est d'ailleurs quelque chose qui doit se faire de manière très progressive. Moi, en général, ce que je fais, je cours pas pieds nus de manière générale. C'est vrai que bon, j'ai des chaussures moi-même, même si j'ai tendance à aller vers quelque chose de plus en plus minimaliste. Mais dès que je peux, après mes entraînements, pour pour mon retour au calme, en général, j'ai tendance à enlever mes chaussures et terminer les 10, 15, 20 dernières minutes pieds nus dès que je peux.
Et je pense que c'est une excellente idée. Et quand les athlètes l'intègrent de façon systématique dans l'entraînement, je le recommande souvent au début de l'entraînement, plutôt qu'à la fin dans le cool-down. Okay. Donc, en fait, les pieds sont un peu moins moites, un petit peu plus tolérants. Et en fin de compte, on intègre immédiatement des comportements de modération d'impact plus efficaces. Et quand on enfile les chaussures, on garde une certaine mémoire de ces quelques minutes passées okay. pieds nus à courir un petit peu plus efficacement. Et il y a vraiment tout un intérêt, je pense, même pour la performance, même si on n'en discute pas beaucoup, d'intégrer du pied nu dans l'entraînement. Non seulement dans l'aspect prévention des blessures, amélioration de la technique de course, mais aussi solidification des structures et amélioration du dynamisme au sol, de l'économie de course et ainsi de suite.
Bah écoute, je note, je prends bien note effectivement et j'intégrerai ça dans mes échauffements dès à présent.
Rassure-nous, il est jamais trop tard, j'aime pas employer ce mot, mais il est jamais trop tard pour transiter vers la course pieds nus, pour revenir aux sources.
Non, jamais trop tard. La seule chose, c'est que selon vos habitudes, selon vos antécédents, soyez prudents. Donc moi, à mes patients, le conseil, c'est une minute de plus par entraînement. Et souvent, c'est maximum 2 minutes totales de plus par semaine. Donc, si le mardi et le jeudi, tu es sur la piste à faire tes intervalles et tu vas intégrer un peu de pieds nus parce que c'est facile pour toi, ben, la première fois, tu fais 1 minute, la deuxième, tu fais 2 minutes. Et puis, la semaine suivante, tu pourras faire du 3 et du 4. On est très prudent dans l'intégration du pied nu et des chaussures minimalistes pour s'assurer que l'individu, en fin de compte, qui fait cette transition, ne se blesse pas. Parce qu'elle est à risque par les habitudes qu'elle a depuis de longues dates, de s'être déconditionnée par le port chronique de chaussures maximalistes.
Une question par rapport aux actions que vous menez aussi avec la clinique du coureur. Est-ce que vous faites de la prévention, enfin plutôt du lobbying auprès des différentes fédérations nationales ou internationales de course à pied, de triathlon ou autre, pour justement autoriser les courses pieds nus? Parce qu'en triathlon, par exemple, suivant les fédérations nationales, il n'est pas toujours autorisé de faire des courses pieds nus. On est obligé de porter des chaussures. Alors, que ce soit un maillot, le torse nu, ça, je pense que ça tombe sous le sens, mais en course à pied, qu'est-ce qui pourrait nous interdire de courir pieds nus finalement?
Ça nous ferait gagner du temps aussi en transition.
Alors, ça fait aucun sens d'un point de vue scientifique. On organise une course de trail. Alors, dans le site web de la course de trail, on écrit « Si vous désirez courir pieds nus, à vos risques et périls, vous pouvez le faire comme vous voulez. Si vous voulez courir avec des Hoka, à vos risques et périls, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. » C'est un choix extrêmement personnel. Et c'est complètement ridicule qu'une fédération statue là-dessus avec l'idée, probablement, qu'il y a un risque relatif par rapport aux blessures, parce que c'est probablement de ça qu'elle veut se protéger. Et il faut savoir que ceux qui décident de courir pieds nus, habituellement, c'est en toute connaissance de cause, et c'est parce que, justement, ils ont pris des habitudes et ils ont l'habitude de courir pieds nus. Alors, de souvenir, c'est vos triathlètes super forts qui a viré trail, qui vient de l'île de la Réunion. Et qui avait gagné un sprint.
Davidos,
exactement. Et qui avait gagné un sprint parce que finalement, il était resté pieds nus. Il n'avait pas fait sa transition. Et je pense que comme c'est un triathlon très court, ben, il n'y avait pas eu vraiment de problème. Et je pense qu'il pouvait. Puis bon, il n'a pas gagné parce qu'il était pieds nus. Il a gagné parce qu'il était plus fort que les autres. Mais clairement, en triathlon, il pourrait avoir un certain avantage à finalement être au moins très bien adapté à courir pieds nus. Parce que d'avoir fait 2 petits triathlons dans ma vie, quand tu fais ta transition, tu sors de l'eau et il faut que tu cours pieds nus jusqu'à ton vélo, il y a une petite zone là où des fois il y a des petits cailloux et tout, et d'être bien adapté, ça peut aider un peu. À ta question, Hermano, on l'a jamais fait de façon officielle en France ni au Canada. Moi, j'ai fait beaucoup de présentations au comité olympique, à différents groupes de chercheurs au Québec, de groupes organisés. Mais c'est en Espagne où nos Espagnols, représentant la Clínica del Corredor, qui est le versant clinique du coureur en Espagne, eux ont fait des représentations auprès de la Fédération d'athlétisme parce que justement, ils avaient interdit le pied nu à des coureurs de trail. Et après les représentations, finalement, ils ont ouvert en disant oui, OK, c'est correct et en leur apportant de la science et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être un travail qu'on devrait faire s'il y a des fédérations, en fin de compte, qui sont contre le pied nu parce que ça fait aucun sens d'un point de vue scientifique.
Effectivement, la seule chose qu'ils peuvent mettre en avant, c'est la prévention des blessures pour éviter d'être tenu responsable s'il y a un bout de verre, un caillou, quelque chose et que la personne se blesse. Après, comme tu l'as dit, quand on décide à courir pieds nus, on le fait en connaissance de cause, normalement. D'autant plus quand on est un triathlète professionnel, si on parle des triathlètes professionnels.
Exact.
Je voudrais qu'on parle un petit peu justement sur le business model de la clinique du coureur. Comment est-ce que vous réussissez à survivre? Est-ce que c'est une organisation sans but lucratif? Est-ce que, au contraire, c'est une société avec un but lucratif? Est-ce que vous vendez des prestations aux professionnels, aux particuliers? Comment ça fonctionne? Si tu veux en parler, bien entendu.
Alors, je suis très, très à l'aise de parler de business. C'est en France, normalement, que ça vous donne la nausée quand on nomme ce nom-là. Nous, au Québec, parler de business, parler d'entrepreneuriat, ça nous fait toujours plaisir. Donc, c'est vraiment pas un problème. Alors, il y a différentes entités. Il y a la clinique du coureur internationale. Et après ça, en France, on a la clinique du coureur France sous la dénomination Running Education, qui est une entité, en fin de compte, légale et fiscale indépendante, duquel la clinique du coureur international est propriétaire à 80%. Notre core business qu'on vend, c'est des cours et des connaissances pour les professionnels de la santé. Donc, on donne des formations où on regroupe 30 professionnels dans une salle et on leur donne un cours de 2 jours sur comment on prévient, comment on traite les blessures en course à pied. Et on a un registre de tous les professionnels qui font la formation pour que les coureurs puissent retrouver ces professionnels-là à travers le site. Donc, si vous allez sur le site de la clinique du coureur, cherchez un professionnel de la santé, trouvez un service professionnel de la santé, vous allez, de façon géolocalisée, trouver les professionnels qui ont fait nos formations proches de chez vous. Ces professionnels-là s'éduquent aux meilleures pratiques en payant un frais. Ils payent très cher, hein, 590 € pour faire une formation. Et en fin de compte, ils peuvent faire cette formation et avoir des connaissances. Et après ça, on les entretient dans une certification avec toutes ces connaissances-là. Donc, nous, on trie la littérature scientifique. Et quand tu es abonné à la clinique du coureur comme professionnel de la santé, ben, tu reçois de l'information continuellement pour continuer d'être à jour dans tes connaissances. Fait que ça, c'est le business model. Il est beaucoup autour de ça. On fait aussi des accréditations de cliniques spécialisées, des cabinets qui, eux, se spécialisent encore plus. Et eux, ben, ils nous payent une redevance annuelle, mais on leur donne plein d'avantages de formation de X, Y, Z. En parallèle de la clinique du coureur, on organise une course qui est un OSBL, qui est le Trail de la clinique du coureur, où on ramasse des fonds pour un organisme qui s'occupe d'enfants défavorisés qui viennent en camp de vacances. Donc, on arrive à ramasser un 5 000 $ à chaque année pour cette cause-là. Et on a aussi à la clinique du coureur un fonds philanthropique. Chaque fois que je donne une conférence, mon salaire et les profits de la conférence vont dans ce fonds philanthropique. Mes droits d'auteur du livre La clinique du coureur vont dans ce fonds philanthropique. Donc, on arrive à le nourrir et à ramasser plusieurs dizaines de milliers d'euros par année avec tout ce qu'on fait. Et en fin de compte, on redonne à des causes de toutes sortes avec ce fonds philanthropique. Quoi dire d'autre? Voilà, si vous avez des questions sur le business, je vous le dis, moi, j'ai aucun tabou là-dessus. Donc, vous pouvez me poser tout ce que vous voulez. Je suis très confortable avec l'argent, est-ce qu'il faut faire de l'argent, est-ce qu'il ne faut pas en faire, voilà, je vous écoute.
Du coup, je me sens un peu mal parce qu'on t'a invité à venir t'exprimer sur le podcast. Tu as accepté, bien entendu, bénévolement. Tu nous dis que tous les jetons de présence que tu reçois sont reversés à ce fonds philanthropique. Je me sens un peu mal, du coup, de t'avoir invité gracieusement.
Non, mais c'est correct. Mais si jamais vous décidez quand même de me donner 50 €, vous saurez qu'on le mettra dans le fonds philanthropique.
Bon, tu nous enverras ton compte et puis moi je ferai ma part.
T'as parlé de l'Espagne, bientôt l'Italie, tu parlais du Japon aussi. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui, dans quel pays et c'est quoi les plans pour le futur?
Alors je dirais que le COVID nous a un peu ralenti quand même. Hein. Je sais pas si vous avez eu ça en Europe, mais nous ça a quand même mis un peu terre. ça nous a quand même beaucoup ralenti. Vois-tu, au mois de janvier 2020, je revenais du Japon. On était dans le lancement du marché japonais et janvier 2020. Et là, on revient. Puis tout de suite après, les frontières ferment. C'est la fin. C'est vraiment... Au mois de février, je pars en Italie. Et quand je reviens de l'Italie, mi-février, c'est la fin de l'Italie comme on le connaît, avec le confinement.
Mais en fait, c'est toi le patient zéro. Alors,
exactement. À un moment donné, je me suis vraiment dit, là, il y a un problème à quelque part. Le N0, le patient zéro, c'est moi. Et donc, le COVID nous a vraiment freinés, mais là, bon, on relance tout. Mais là, ce qu'on a, c'est une entité française qui est très forte. On donne en France, je pense, 150 cours par année si on compte la Belgique et la Suisse en même temps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de formation continue. La France s'occupe de la Suisse et de la Belgique, toute la région francophone. Après ça, il y a l'Italie qui est une entité, il y a l'Espagne qui est une entité, et on enseigne aussi des cours ponctuels un peu partout. Donc, on est en train de planifier le Chili, on a déjà été au Brésil, Nouvelle-Zélande, on a une enseignante qui est là-bas avec l'Australie, Jean-François Escudier qui est le recherche-développement, le master de recherche et développement, le leader qui habite à Vancouver, s'occupe plus du marché de l'Ouest, donc beaucoup les États-Unis et Australie, Nouvelle-Zélande. Là, on avait la Chine qu'on développait juste encore avant le COVID. Et là, avec le COVID, on a tout mis à hold. Mais là, la Chine, c'est un nouveau marché un peu particulier parce que là, ça prend un nouveau site web, ça prend des nouveaux enseignants. La barrière de langue est tellement forte qu'on ne peut pas enseigner en anglais, donc ça prend des traducteurs tout le temps. Là, on a une personne ressource en Chine, justement, qui est un Canadien qui travaille là-bas, qui est en train de nous développer tout ça. Donc, plein de marchés en développement. Ouais.
Et alors, comment tu fais pour trouver, alors, un, pour choisir les pays dans lesquels tu veux développer la marque, la clinique du coureur, et deuxièmement, à partir du moment où tu as choisi ces pays-là, comment est-ce que tu fais pour trouver les bonnes personnes?
Alors, on a un expert là-dedans qui est Mathieu Blanchard. Alors, vous le connaissez peut-être dans le monde du trail parce que c'est un très bon ultra-trailer qui est le développement marché international à la clinique du coureur, qui va être à l'UTMB, puis qui a fait 13e il y a 2 ans, et qui veut performer. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ça va être intéressant. Mathieu, en fin de compte, a des gros documents Excel. C'est un ingénieur de formation, hein. Donc lui, il se fait des documents Excel avec des facteurs prédictifs de succès dans les marchés, avec 20 critères, avec plein de trucs. C'est assez complexe, mais il y a des marchés où on sait que ça va décoller. Il y a des marchés où on a un peu de réserve parce qu'on dit, bon, ben, pour plein de différents facteurs, ça va être plus difficile. Et après ça, ben, bien évidemment, souvent, on va donner un cours initialement. Alors, on se trouve, on organise le cours. Mais dans les cours, on fait des contacts, on rencontre des gens. On a dans les cours des professionnels de la santé qui sont allumés, éveillés. Alors, je reviens à mes deux Français qui gèrent la compagnie française. Je les ai rencontrés dans des cours. Et quand j'ai rencontré Flavio et Florence, je me suis dit, si on veut lancer la France, ça prend un duo. C'est un gros marché. Ça prend un duo, un gars, une fille, un coureur de route, une coureuse de trail, un coureur de 5 km, une coureuse d'ultra trail, avec des compétences très complémentaires. Et là, je les ai rencontrés en disant, est-ce que vous avez envie de rentrer dans l'aventure de la clinique du coureur? Et il faut savoir que la clinique du coureur, c'est une entreprise affranchie, sans hiérarchie, sans... très collaborative, on travaille en cellule, donc quand on lance la France, ben on est tous à égalité et on lance ce marché-là avec des passionnés qui ont envie de s'investir. On sait un jour qu'on va faire des sous puis qu'on va pouvoir se payer adéquatement, mais au début, on se lance toujours dans une aventure par passion d'abord et avant tout. Et c'est ça, je pense, qui fait la richesse de la clinique du coureur, c'est que dans tout ce qu'on a fait, là, l'Italie est en train de se développer en accéléré, ben c'est des passionnés locaux qui sont en train de monter l'Italie, parce que si on y allait purement d'un point de vue business, comme on fait du business, ben ça marcherait probablement pas.
Là, tu nous as donné quelques noms de pays où vous êtes présents. Est-ce que vous êtes aussi présents sur le continent africain? Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais souvent, en tête de course, on ne retrouve pas beaucoup de ces fameux caucasiens blancs adaptés à porter des chaussures dont tu parlais, et bien loin de moi les clichés. Est-ce que vous vous développez aussi sur le continent africain ou sur d'autres continents, dans d'autres pays dits en voie de développement?
C'est peut-être la région qui en a le moins besoin, finalement.
Exactement. Ils n'ont pas besoin de nos conseils de bonnes techniques de course et de pas de chaussures. Ils ont souvent pas trop de chaussures et des bonnes techniques de course. On a été en Afrique du Sud enseigner. Si le COVID n'avait pas existé, on serait allé faire l'expérience 3.0, la clinique du coureur au Kenya. Et c'est toujours dans les plans, donc on est en conception là-dessus. Parce que dans le business model, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais on donne des cours en présentiel dans les pays. Mais après ça, il y a les cours avancés qui sont 10 jours au Québec. Les gens viennent entre 7, 8 à 10 jours. Et ils viennent, on les nourrit, on les loge. On a 12 experts qui font plein de cours de toutes sortes sur la physiologie, sur la nutrition, sur plein de choses. Et c'est vraiment une semaine complète d'activités, de formation et ainsi de suite. Ça, c'est le 2.0. On fait 4 groupes de Français à chaque année avec ça. Donc, des professionnels de la santé qui peuvent venir faire cette formation-là quand ils ont fait les prérequis du 1.0 en France, en Suisse, en Belgique, ailleurs. Et on a l'expérience 3.0 où on en planifie un à Hawaï et un au Kenya, en fin de compte, qui est un autre niveau encore, où là, on chapeaute une étude scientifique, on fait de l'expérimentation, on va s'entraîner sur place. Et il y a aussi de la formation, bien évidemment, sur au Kenya, ça va être vraiment sur l'entraînement, la physiologie, les philosophies d'entraînement. Puis quand on va être à Hawaï, c'est plus sur bouger naturellement, on va avoir du jeûne d'intégré, il y a plein de choses comme ça. Et les 3.0, ben, c'est Michael Préty à la Clinique du Coureur qui est un peu l'instigateur et le penseur de tout ça, donc il est en train de faire avancer tout ça. Encore une fois, le Covid nous a un peu ralenti dans nos projets, mais ça va venir prochainement.
Donc le 3.0, il faut avoir fait le 2.0, et pour faire le 2.0, il faut avoir fait le 1.0. Est-ce que il faut être professionnel de la santé pour faire ça, ou n'importe qui a des velléités, qui veut en apprendre plus, qui veut transmettre ou qui veut se former, peut le faire?
Alors le 1.0, même s'il est construit pour les professionnels de la santé, il y a 80% de son contenu qui est approprié pour un coureur qui veut vraiment en apprendre plus. On a toutes sortes de gens qui sont venus dans ce cursus de 1.0. C'est un cours de 2 jours. Pour faire le 2.0, il faut absolument avoir fait le 1.0. Le 2.0, si tu n'es pas professionnel de la santé, tu n'auras pas beaucoup de plaisir, autre que pour les restos, les soirées et tout ça. Mais pour le cursus, en fin de compte, c'est très porté clinique. Donc, on ne regroupe que des professionnels de la santé. Par contre, pour le 3.0, il va être ouvert au 2.0, bien évidemment, qu'attendre la prochaine expérience, mais on va l'ouvrir probablement plus large à ceux qui auront vécu le 1.0, puis qui ne seront pas venus au 2.0, puis qui ne seront peut-être pas des professionnels de la santé, vont pouvoir faire le 3.0. Et on organise, je ne vous ai pas tout dit là, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais on va avoir aussi de la survie au Québec au milieu de l'hiver, il y a plein de choses comme ça. Donc là, on va certainement accepter plus de gens qui ont envie de vivre des expériences à travers la Clinique du Coureur et non pas seulement des professionnels de la santé. Donc oui, les gars, vous pourrez vous inscrire à un 3.0 à un moment donné.
Bon, super. Moi, je suis en pleine reconversion professionnelle, personnelle, sportive et tout, donc je prends bonne note. Messieurs, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui, même pour la semaine. C'était vraiment un échange très instructif et que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, Blaise, je te remercie pour tous ces échanges, pour cette franchise, pour ce partage, pour le temps que tu nous as accordé. N'oublie pas de nous envoyer ton compte en banque pour qu'on puisse contribuer au fonds philanthropique. Où est-ce qu'on retrouve la Clinique du Coureur, même si je doute qu'il y ait des gens qui ne sachent pas, mais comment est-ce qu'on vous retrouve?
Alors sur Google, vous marquez la Clinique du Coureur et vous allez tomber sur le site qui est lacliniqueducoureur.com. Et via le site web, ben, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez nos connexions de tous les médias sociaux. Vous avez beaucoup d'informations éducative, gratuite. Donc, il y a plein de vidéos éducatives, il y a plein de choses essentielles comme c'est quoi la quantification du stress mécanique, c'est quoi l'indice minimaliste, comment bien courir pour pas se blesser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le site qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. Et si jamais vous avez besoin d'un service de professionnel de la santé, vous avez le registre de tous ceux qui ont été formés par la Clinique du Coureur. Donc, proche de chez vous, en fin de compte, vous pourrez trouver une boutique, une clinique, un cabinet, avec un professionnel, avec un entraîneur qui vont pouvoir répondre à votre besoin. Je ne vous ai pas dit non plus, mais il y a une autre chose. Il y a coaching du coureur. Donc, le coaching du coureur, on l'a parti au Québec. Ça arrive en France dans la prochaine année. On fait du coaching. En fin de compte, il y a tout un groupe d'enseignes de coachs formés aussi par la Clinique du Coureur qui vont pouvoir faire du coaching personnalisé. Donc, plein de synergies qui vont se développer. Tu me parlais, Hermano, d'une redirection de carrière, donc il faudra voir comment on peut marier certaines choses ensemble, mais clairement coaching du coureur, aller explorer ça, c'est on a un partenariat avec Nolio et on fait du coaching, c'est vraiment cool.
Bah, Nolio, on l'a reçu aussi dans Nakan et puis il va falloir qu'on les reçoive, un de ces quatre, les gars de Nolio, ils opèrent aussi dans le triathlon.
Exactement.
Génial. Bah, Blaise, un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé autant de choses. Je pense que ce sera une série d'épisodes à écouter, à réécouter plusieurs fois. C'était très riche en informations.
Comme ton livre à mettre sur sa table de chevet.
Exactement, mais pour le coup, c'est pas une blague, hein. Il est vraiment sur ma table de chevet.
Super, bah, merci beaucoup à tous les deux. Olivier, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis Blaise, bah, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. On reste en contact et puis de toute façon, dès qu'on aura des questions dans le podcast sur la course à pied ou autre, eh bien, je sais qu'on aura une oreille attentive avec
toi. Exact, puis dans les 2 semaines qui précèdent l'UTMB, je suis à Chamonix. On enseigne, on va dans la montagne, on se fait nos réunions avec toute l'équipe italienne, belge, espagnole, française. On se réunit tout le monde, on a 3 chalets de louer, puis on fait tout ça. Donc, et il y a toujours le petit party mythique avec les VIP. Donc, vous êtes invités à Chamonix pour venir nous rejoindre. Vous avez mes coordonnées, mes numéros, donc vous m'appellerez. On ira marcher et courir dans la montagne.
Ça marche.
Super, écoute, je note.
Salut Blaise.
Merci beaucoup Blaise, à très bientôt.
Ciao guys.
Salut Blaise.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs!